Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Jonas Haddad, conseiller régional de Normandie, président des Républicains en Seine-Maritime. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Jonas Haddad, l'actualité de ces derniers jours a été marquée, bien sûr, par le décès de la reine Elisabeth II, ce qui est bien normal compte tenu de son importance historique. Comment expliquez-vous tout de même l'émotion que sa disparition a suscitée en France, un pays républicain qui a, on s'en souvient, guillotiné son roi ?
D'abord parce que la France a avec l'Angleterre un lien particulier qui est fait à la fois d'admiration pour sa capacité à la résistance, pour sa capacité à avoir gardé des traditions. On a un pays qui aime bien ce type de tradition, je pense foncièrement. Mais on a un pays qui est plein de paradoxes. Effectivement, un certain nombre de présidents de la République ont dit qu'on était des monarchistes réficides, voilà, donc des gens qui veulent un monarque mais qui veulent en même temps le tuer. Donc finalement, cette stabilité anglaise, ce point de convergence d'une nation, je pense que c'était apprécié. Et puis finalement, c'est quelqu'un qui a traversé toutes les générations. Le premier gouvernant qu'elle a eu, c'était Winston Churchill comme premier ministre. Donc vous imaginez, c'est comme on remonte à la Seconde Guerre mondiale. Donc oui, c'est un pan de l'histoire entière qui s'effondre. Et puis finalement, entre la Normandie par exemple et l'Angleterre, il y a que quelques dizaines de kilomètres. Vous voyez, donc on n'est pas si loin.
Alors, Jonas Haddad, les Français ont vécu l'été le plus chaud jamais mesuré. On a en mémoire la sécheresse, les incendies. À cela s'est ajoutée l'inquiétude au sujet de notre consommation d'énergie. Aujourd'hui, vous qui êtes à droite, est-ce que l'écologie doit transcender les clivages politiques ?
Évidemment. Et c'est d'ailleurs pour ça que, en tant que responsable de droite, je me désole qu'elle soit accaparée par des gens qui n'ont d'écologistes que le nom. Si vous voulez, quand on vous dit que il faut interdire le barbecue et que l'interdiction du barbecue le fait de pouvoir déconstruire les hommes, c'est de l'écologie, je trouve qu'il y a bien plus essentiel dans l'écologie. Quand également les mêmes écologistes vous expliquent qu'il faut casser la filière nucléaire et que du coup on est obligé de réactiver les centrales à charbon en Allemagne et en France, c'est pas ma conception de l'écologie. Donc moi, ma vision de l'écologie, c'est une écologie qui est pragmatique et qui s'appuie sur la science et non pas sur l'idéologie. On voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas, qu'est-ce qui est bon pour la planète et pour le pays et qu'est-ce qui n'est pas bon pour la planète et pour le pays. Donc je pense que l'écologie ne doit pas se mélanger avec le gauchisme, quoi. Voilà, hein, pour être clair.
Jonas Haddad, comment expliquez-vous que la France, qui était le fleuron de l'électricité nucléaire grâce à nos centrales, soit confrontée aujourd'hui à un risque de pénurie ? Est-ce que c'est seulement en raison de la guerre en Ukraine ?
Pas du tout. Pas du tout. Si on avait maintenu notre parc nucléaire tel qu'il existait, eh bien aujourd'hui on serait un peu les rois du pétrole, sans faire de mauvais jeu de mots. Pourquoi ? Parce qu'on aurait une électricité pas chère et on serait même en capacité de la vendre aux autres pays. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis 10 ans, deux personnes ont délibérément choisi de baisser la part du nucléaire dans notre énergie de 70% à 50%. Ces deux personnes, ça a été François Hollande et Emmanuel Macron. Ils ont pris des décisions qui ont fait que progressivement, on a reculé dans la part du nucléaire et on n'a pas trouvé d'énergie pour la remplacer. Et donc, par exemple, c'est l'illustration d'Emmanuel Macron qui a fermé Fessenheim, et qui, contrairement à ce qu'il dit, était parfaitement en état de fonctionner. Et d'ailleurs, pas plus loin que à la rentrée du MEDEF, le patron d'EDF, ce qui est rarissime, a dit lui-même que c'était les décisions politiques des dernières années qui ont provoqué cet effondrement de ce qui marchait bien en France. C'était la vision du général de Gaulle. Le général de Gaulle avait dit « je veux une vision dans laquelle la France est indépendante, elle dépend de personne, elle crée sa propre énergie ». Et donc on avait de la chance d'avoir cette énergie nucléaire-là. Eh bien Hollande et Macron l'ont sabordé. Et là, pour le coup, ils tiennent une responsabilité très importante dans les difficultés au quotidien de nos concitoyens.
Quand les écologistes disent qu'il faut réduire notre part d'électricité nucléaire, pour vous, ça n'est pas possible ?
En fait, ça n'est pas possible en l'état. Peut-être que demain, une nouvelle technologie existera et qu'elle sera aussi propre que le nucléaire. Les écologistes citent souvent l'Allemagne en matière d'exemple. Eh bien, figurez-vous que la semaine dernière, Greenpeace en Allemagne a dit « C'est vrai, on s'est trompé, il faut rouvrir les centrales à charbon ». Il faut bien que nos auditeurs comprennent qu'une centrale à charbon, ça émet 10 fois plus de CO2 qu'une centrale nucléaire. Donc tant qu'on n'aura pas trouvé une énergie alternative qui est aussi propre que le nucléaire, il faudra m'expliquer pourquoi les écologistes continuent à plaider pour une énergie qui est sale. Voilà, je ne comprends pas. Alors après, si vous interrogez les écologistes et que vous les poussez un peu dans leur retranchement, ils disent « Ah non, en fait, on ne veut pas une énergie propre. Ce qu'on veut, c'est la décroissance. Ils veulent que tout le monde produise moins et consomme moins. Donc ils veulent baisser notre niveau de confort à tout à chacun. » Ça, nous ne le partageons pas. Nous, on considère qu'on peut garder le même niveau de confort, mais en utilisant des énergies propres, en croyant à la science, en croyant à l'innovation, en croyant au progrès, et non pas en retournant en arrière.
Alors, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé un appel solennel ce week-end alors qu'il visitait le Pakistan. Il souhaite que l'on développe davantage les énergies renouvelables pour lutter contre le réchauffement climatique. Est-ce que, par exemple, il faudrait qu'on aille plus vite sur les éoliennes qui ne sont pas toujours acceptées par la population?
Justement, non. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez, l'exemple de la Normandie, il est excellent parce qu'on est à la fois une région dans il y a beaucoup de nucléaire, il y a plusieurs centrales, et puis il y a beaucoup d'éoliennes. Et on voit bien, on compare l'énergie qui est produite. L'énergie éolienne ne représente que 20% lorsqu'on produit de l'énergie. Pourquoi ? Parce que c'est assez simple, hein, ça tourne avec le vent. Et donc il n'y a pas tout le temps du vent dans nos régions. On n'est pas les Pays-Bas, on n'est pas la Belgique. Et à côté de ça, et c'est là où les écologistes font une grave erreur, les gens ne savent pas que les éoliennes tournent avec quoi ? Avec du gaz. Et quel est le grand problème dans le monde aujourd'hui? C'est obtenir du gaz, puisque les Russes ont coupé le robinet. Donc, quand M. Gutiérrez dit qu'il faut davantage d'énergie renouvelable, il a certainement raison, mais il faut s'adapter à chacun des pays. Nous avons le nucléaire, qui est une énergie propre et décarbonée. Alors effectivement, lorsque c'est un pays qui est en voie de développement et qui n'a pas du tout les moyens ou la connaissance scientifique pour développer du nucléaire, vaut mieux qu'il installe des panneaux photovoltaïques sur ses bâtiments. Ça, c'est une évidence. Mais nous qui avons une énergie qui est propre et décarbonée, on n'aurait pas dû la saborder.
Jonas Haddad, vous qui êtes un élu local, les personnes que vous rencontrez en Normandie, en Seine-Maritime, sont-elles très inquiètes de la flambée des prix de l'énergie? Est-ce qu'elles s'inquiètent, par exemple, pour leurs factures de gaz et d'électricité cet hiver?
Oui, ils s'inquiètent. Ils s'inquiètent parce que d'abord, on voit bien que ça a déjà augmenté. Hein. Je pense notamment aux collectivités locales. Hein. Je parle à des maires qui me disent « Mais moi, je sais pas comment je vais faire pour tenir mon budget. L'énergie a considérablement augmenté. » Et puis surtout, mais on sort quand même, il n'y a pas longtemps, du Covid. On se reprend une crise énergétique. Je veux dire, est-ce que les gens, à un moment, vont pas se dire « J'en ai marre de passer d'une crise à une autre crise, et puis à une autre crise, et puis à une autre crise ?» On aimerait bien sortir et être juste dans un moment dans lequel on peut vivre paisiblement avec un rapport qui est tranquille à notre vie quotidienne. Et peut-être aussi que c'était une faute que de continuer trop longtemps à faire tourner la planche à billets. Parce que comme on a injecté beaucoup d'argent dans l'économie, parfois alors même qu'il n'y en avait plus besoin après le Covid, et bien effectivement, le coût de la vie s'est renchéri. Évidemment... Et c'est pas moi qui le dis. Vous voyez, quand vous posez la question à quelqu'un comme Michel-Édouard Leclerc, il vous dit, mais attendez, l'augmentation des prix et de l'énergie, elle s'est faite avant même le début de la guerre en Ukraine. Et donc, il y a des personnes qui aujourd'hui se comportent en profiteurs, si vous voulez. Donc, il faut à la fois lutter contre ceux qui profitent de la crise, mais aussi dire que ce serait bien qu'à un moment, on ne s'aborde pas ce qui existait. On était les champions du monde de l'énergie. Et on a sabordé cette filière-là.
Est-ce qu'il faut taxer les profiteurs de la crise, puisque Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure notamment réclament une taxation des super-profits?
Alors ça dépend. Ça dépend. Et tout dépend de ce qu'on considère comme profiteurs de crise. Des gens qui sont sur le même produit et qui facturent plus alors qu'il n'y a pas de raison, on comprend la logique dans la surtaxation. Mais lorsque vous êtes, je ne sais pas, par exemple, moi, quelqu'un qui fait de la logistique, et que votre facture de pétrole augmente, bah, là, vous ne faites pas de super profit, vous impactez l'augmentation de l'énergie et du pétrole, vous l'augmentez sur la facture finale de la personne à qui vous allez faire une livraison. Donc, jeter comme ça le fait de dire « Ah, les super profits », ça veut rien dire. C'est comme si je disais, moi, il faut se battre contre les méchants. Qui sont les méchants? Pourquoi? À quel moment on considère que c'est un super profit? Ça, c'est de la démagogie, si vous voulez. Nous, l'idée, c'est de dire, on est responsable. Il y a des gens qui sont impactés, parce que l'économie, c'est une chaîne, hein, vous voyez. Donc, au début de la chaîne, il y en a certains, et puis au bout de la chaîne, il y en a certains qui sont obligés de réimpacter. Enfin, je veux dire, je pense que le restaurateur qui augmente de 2 euros son plat, bah, il profite pas de la crise. Il est obligé de le faire. Voilà.
Pour faire face à cette crise de l'énergie, Jonas Haddad, la réponse doit être européenne avant d'être française?
Alors ça, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, ces derniers temps, malheureusement, le fait d'appartenir à un système européen de l'énergie nous a été plutôt défavorable. Parce qu'on a été obligé de passer des concessions. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, nous, on était les champions de l'énergie en Europe et dans le monde. Et donc, comme on était les champions, eh bien, on a dû harmoniser avec des gens qui ne l'étaient pas. Donc, par exemple, se mettre en harmonie avec l'Allemagne ou la Pologne, qui, eux, consomment beaucoup de charbon, qui est sale. Et donc, en fait, on a dû s'harmoniser avec eux. Et donc, en fait, malheureusement, on a un peu perdu le bras de fer, et donc, on a accepté de baisser notre part du nucléaire. Hein. Donc, la solution, elle est effectivement européenne, mais si le fait de dire « c'est européen », ça veut dire on perd le bras de fer contre l'Allemagne, alors dans ce cas-là, non, elle nous sera défavorable. Donc voilà, elle n'est européenne que si on impose. Je le dis souvent, regardez, on dit toujours qu'on a un bon modèle social et qu'il faut que l'Europe s'inspire du modèle social français. Ben, moi, ce que je dis, c'est que l'Europe devrait s'inspirer du modèle énergétique français. Voilà. Et donc oui, à ce niveau-là, on peut être européen.
Alors, Jonas Haddad, vous qui êtes conseiller régional de Normandie, est-ce qu'il faut que les régions développent davantage les petites lignes de train pour inciter les Français à se passer des véhicules individuels? Est-ce qu'elles ont les moyens de développer le réseau?
Alors, c'est exactement ce qu'on a fait en Normandie, puisqu'on a été la première région en France, à l'époque, c'était sous le gouvernement de Manuel Valls, à avoir obtenu, de force, hein, mais on a obtenu, de prendre l'autonomie en matière ferroviaire. Donc jusqu'à présent, c'était la SNCF et l'État qui pilotaient nos lignes. Et en fait, maintenant, c'est la région elle-même qui définit la desserte au sein de la région. Donc moi, je suis assez favorable là-dessus. Et puis d'autant plus qu'aujourd'hui, bah, si vous voulez, avec l'évolution des modes de travail, avec l'évolution des structures familiales, il faut qu'on puisse s'adapter aux besoins. Mais attention, la voiture individuelle ne s'éteindra pas. Quand vous devez faire 40 km et que vous êtes dans une zone rurale qui est peu desservie, où il y a peu d'habitants, vous ne pouvez pas y aller en vélo et vous ne pouvez pas y aller en train. Donc voilà, ce que font d'ailleurs un certain nombre de zones dirigées par des écologistes, qui consiste à exclure des grandes villes du fait des véhicules, des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des véhicules qui ne sont plus polluants parce que c'est des véhicules qui sont anciens, je trouve que c'est assez antisocial en fait. Vous voyez, quand votre patron il vous dit bah ok, faut venir en centre-ville pour venir bosser parce que c'est là où il y a le travail, parce qu'on a aussi désindustrialisé hein, autour de nos grandes villes, bah les personnes elles ont besoin, vous voyez, faut regarder les annonces sur les sites d'annonces d'emploi, on demande un permis, quoi. Voilà, parce que les gens, ils ont besoin de venir, de faire des allers-retours, un commercial, quelqu'un qui est dans le service à la personne, quelqu'un qui a besoin de se garer pour déposer des affaires. Bon, et puis en plus, on est en Normandie, donc vous savez qu'il fait beau plusieurs fois par jour, donc il pleut de temps en temps. Et donc, voilà, c'est pas des choses qui sont faciles à transformer et qu'on propose des offres alternatives, ça, je suis parfaitement d'accord. Évidemment, lorsque c'est des villes plates, dans lequel il fait beau et qu'on peut se balader à vélo, bah évidemment, personne ne dirait le contraire. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas. Des gens qui ne peuvent pas, qui n'ont pas les moyens. Il faut se mettre à la place de ces gens-là.
Alors, les Français reprochent à Emmanuel Macron son bilan en matière de sécurité. Si la droite revenait au pouvoir aujourd'hui, quelles mesures seraient prises pour faire baisser la délinquance?
Alors, il y a une mesure à laquelle je tiens beaucoup, c'est les peines planchers. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, si vous faites 10 fois un délit, vous êtes puni de la même façon que si vous faites une première fois un délit. Voilà. Et ça, c'est assez incroyable. On avait lancé ça à l'époque lorsque la droite était au pouvoir, et ça a été cassé par Hollande, et ça n'a pas été remis par Emmanuel Macron. Et donc voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous parlez à des policiers, et même d'ailleurs, c'est quand vous parlez dans des quartiers, les gens vous disent, mais attendez, la majorité des gens ne sont pas des délinquants. C'est une minorité de délinquants qui font la majorité des délits. Donc ils font 10 fois, 15 fois, 20 fois les mêmes délits. Donc si on n'augmente pas la peine en fonction de la récidive, eh bien on n'y arrivera pas. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, il faut construire des places de prison. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, vous avez 50% des gens qui n'exécutent pas la peine pour laquelle ils ont été condamnés. Donc aujourd'hui, pour être condamné à la prison, il faut avoir fait quelque chose de quand même assez grave. Et malgré ça, le gouvernement n'a pas été capable de construire les places de prison qu'il avait promis. Donc il faut construire les places de prison pour les délinquants les plus dangereux, pour éviter les scènes atroces qu'on voit parfois. On entend parler de couteaux, de marteaux, de choses comme ça. Ça, il faut que ces personnes-là puissent être enfermées. Et puis enfin, dernier point, il faut qu'on puisse contrôler davantage l'immigration. Parce que, et ça c'est les chiffres officiels qui le disent, dans les prisons ou dans les transports en commun, la grande majorité des délinquants sont des personnes qui ne sont pas françaises. Ce sont des personnes qui sont de nationalité étrangère. Dans les prisons, c'est 55% des personnes qui sont étrangères. Dans les transports en commun, notamment en région parisienne, c'est 80% des délinquants, de ceux qui ont commis un délit, qui sont étrangers. Et donc si on ne régule pas l'immigration avec des gens qui viennent pour respecter le pays dans lequel ils se trouvent, si on ne contrôle pas en amont, si on ne met pas l'obligation, par exemple, de ne pas avoir de casier judiciaire ou de ne faire aucun délit pour pouvoir être régularisé, on n'y arrivera pas. Voilà. Parce que je pense que c'est important que lorsqu'un immigré arrive, il a le droit de venir dans notre pays, il a le droit de s'intégrer parfaitement. Mais nous, comme n'importe quel pays au monde, en fait, on ne doit pas être différent des autres pays au monde. On a aussi le devoir de lui dire, écoute, si tu es dans ce pays-là, voilà les règles. Si tu les respectes pas, ben malheureusement, tu dois repartir. Voilà. Donc ça, il y a aussi une régulation de l'immigration que, encore une fois, et là, vous voyez, finalement, on dresse des parallèles qui sont assez communs entre Hollande et Macron. Ils n'ont pas voulu remettre en cause ça, et ça provoque aujourd'hui une tension dans le pays. Et c'est pour ça que le FN monte. Moi, je suis quelqu'un de républicain, on n'est pas des énervés de l'immigration, mais tant qu'on ne réglera pas ce problème, le FN montera.
Dernière question, très rapidement, Jonas Haddad, qu'attendez-vous du prochain congrès des Républicains en décembre ?
Bah écoutez, j'attends que d'abord ce soit l'occasion de faire une refonte totale du parti. C'est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'en gros, moi je trouve que quand on regarde les enquêtes d'opinion, quand on discute avec les gens ont besoin de quoi ces derniers temps ? Ils en parlaient un instant, ils disent « je veux plus de sécurité et moins d'impôts ». Bah ça, si c'est pas des demandes de droite, c'est que je ne comprends pas. Et donc en fait, on a une France qui a un besoin, entre guillemets, d'autorité et de liberté économique, et pourtant, la droite ne réalise pas ses meilleurs scores. Et donc, vous avez aujourd'hui une partie de la droite qui a regardé vers Emmanuel Macron, et une autre partie de la droite qui a regardé vers Marine Le Pen. Et il faut que notre nouveau parti en tienne compte pour pouvoir retrouver le cœur des Français.
Merci Jonas Haddad. Je rappelle que vous êtes conseiller régional de Normandie et président des Républicains de Seine-Maritime. Bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.